Je vais vous demander encore 10 minutes de patience. Vous venez d'avoir deux présentations larges, intelligentes, qui montrent d'un côté ce qu'on peut ramasser par la recherche documentaire, ce qu'a fait Dominique Perchet sur la valeur patrimoniale des moulins dans notre région et plus largement. Et l'association vous a fait la démonstration de ce que c'est qu'une démarche activiste. Ils sont très actifs, ils entreprennent, ils veulent le réveil des moulins. Il y a des projets, des appels à projets auxquels ils veulent participer. Et il faut entendre ce qui a été dit sur le chemin qu'ils ont suivi. Et pour nous, à Saint-Antonin, où on était simplement sur notre petit problème de Romégousse, ça nous a beaucoup éclairé d'entendre et de rencontrer ces partenaires-là. Pensez aussi que l'Association des Moulins du Quercy, c'est une association dans une fédération qui est nationale, et qu'il y a d'ailleurs d'autres fédérations. C'est donc une démarche qui est nationale. Il faut regarder comment les choses se passent aussi au plan national, parce que c'est maintenant là, en réalité, que ce débat est porté. Je voudrais quand même, pour finir, revenir à Romégousse, puisque beaucoup d'entre nous ici sommes de Saint-Antonin et connaissons surtout la question de Romégousse, et parce qu'il y a aussi une actualité de ce côté-là. Pourquoi Romégousse ? Pourquoi on s'est intéressé à Romégousse ? Pour deux raisons. La première, c'est que cette chaussée commande, vous le savez, le niveau d'eau à Saint-Antonin, depuis le gravier en amont jusqu'à Romégousse en aval, et c'est le miroir d'eau qui n'est pas pour rien dans le classement du site. C'est l'enjeu patrimonial. Nous savons, et tout à l'heure les photos qu'on a vues le montrent, que l'effacement ou l'échancrure de la chaussée change ou changerait l'aspect de l'Aveyron devant Saint-Antonin. Et on le sait depuis que la crue de 1930 a partiellement détruit cette chaussée. L'Aveyron était devenu une petite rivière et non plus le miroir d'eau que nous avons. Et l'autre raison, c'est qu'il y a aussi à Saint-Antonin, à la chaussée de Romégousse, les restes du moulin qui a été mis en exploitation en 1499. Vous voyez l'ancienneté. Il n'y manque pour produire de l'électricité qu'à installer des nouveaux rodets. Les rodets, c'est les roues qui tournent et qui font marcher ensuite une turbine et une turbine. On peut aussi mettre en place une hydrolienne. Notre association, les Amis du Vieux Saint-Antonin, a pu convaincre au moins deux entreprises spécialisées d'expertiser le site et de fournir des devis chiffrés, précis, à la commune propriétaire qui les détient depuis le début de l'année. Voilà pourquoi Romégousse, au fond. Mais comment se présente le débat aujourd'hui? Et d'abord, qui est dans le débat? Pour résumer, je dirais qu'il y a le propriétaire du moulin. À Romégousse, c'est la commune de Saint-Antonin. Il y a évidemment le gouvernement et son administration, précisément dans notre région c'est l'agence de l'eau Adour-Garonne et les services de la préfecture du département du Tarn-et-Garonne, ce qu'on appelle la DDT. Et ces services poursuivent la politique de continuité écologique dont on vous a parlé en faisant pression sur les propriétaires de moulins et de chaussées, y compris par la possibilité de subventions. Et ensuite les associations comme la nôtre qui soulèvent la question et font les démarches pour aider les propriétaires. Et puis enfin, il faut y penser, il y a ceux qui font les lois, les parlementaires, et l'histoire montre qu'ils ne sont pas sourds aux demandes des propriétaires et des associations. C'est vrai d'ailleurs surtout pour le Sénat, qui est proche des élus locaux. Ça, c'est pour décrire les protagonistes du débat. Ensuite, quels sont les aspects de ce débat? Il y a un aspect juridique et un aspect politique. Je vais être un peu plus précis là. Sur l'aspect juridique, le droit qui gouverne cette matière est dans le Code de l'environnement. Là, on trouve des lois, des décrets, des circulaires, et je mentionne ces différents textes parce qu'il y a entre eux une hiérarchie et que dans ce sujet juridique, la hiérarchie des normes, c'est important. Pour résumer la situation juridique aujourd'hui, il y a la loi de 2006, dont on a déjà parlé, qui donne un article dans le Code de l'environnement, qui donne à l'administration, précisément au préfet de région, le pouvoir d'imposer aux propriétaires concernés la continuité écologique et ses règles. Quelle rivière il faut traiter? Quelles chaussées, quels aménagements, effacements, échancrures, passe à poisson. Ça, c'est un premier aspect de la loi. Mais il y a dans la loi aussi une exonération qui a été introduite par une loi du 24 février 2017, c'est pas très vieux, pour les moulins existants, ceux qui sont fondés en titre, démarche qui est ouverte à tous les moulins historiques, et équipés pour produire de l'électricité ou qui pourraient l'être dans l'avenir. C'est très important cette précision. L'administration, celle de la DDT dont j'ai parlé, utilise pour faire bouger les propriétaires dans le sens qu'elle poursuit le premier de ces textes, le premier de ces articles, et ignore le second. mais elle sent la fragilité de sa politique parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a cette deuxième loi. Et elle fait pression sur les propriétaires par ses subventions, celles de l'agence de l'eau, qui sont d'ailleurs plus favorables aux échancrures qu'aux passes à poissons. Vous me suivez, j'espère. Alors même que cette administration avait le pouvoir, dès le départ, d'agir par contrainte et même d'exécuter d'office, peut-être, les travaux qu'elle prescrivait. Mais elle a pris une démarche où elle voulait surtout convaincre. Et aujourd'hui, devant les résistances, elle essaie d'aller plus loin en essayant de contourner l'exonération légale dont j'ai parlé, en sortant des textes, un décret du 3 août dernier, contre les obstacles à la continuité des rivières, comme les chaussées, qui ne pourraient pas, dit-elle, être équipées pour produire de l'électricité. Je ne détaille pas cette dispute, parce que les juristes sont familiers de ces batailles. On a des batailles comme ça dans tous les domaines. Mais ce qu'il faut se dire dans cette bataille, c'est qu'à la fin, l'administration et même ses décrets doivent se soumettre à la loi, qui est la norme supérieure. Cela peut passer, d'ailleurs, par l'action contentieuse si l'administration nous refusait le bénéfice de la loi de 2017. Ça, c'est pour l'aspect juridique. Mais, évidemment, il faut aborder l'aspect politique aussi, parce que c'est ça qui est le contexte déterminant du droit qui est adopté et mis en œuvre. Pourquoi il y a un aspect politique? Je dirais que c'est d'abord la mobilisation des propriétaires, des associations, des élus locaux, qui peut faire bouger les lois, et qui a d'ailleurs obtenu la loi de 2017 dont j'ai parlé, qui exonère les moulins qui sont équipés pour l'électricité. Ensuite, c'est l'alliance ici, dans cette région, de trois communes propriétaires de moulins sur l'Aveyron, Saint-Antonin, Casals et Varin, qui a pu freiner l'ardeur de l'administration départementale et qui a abouti à étaler pour celle-ci, dans le temps, son programme d'aménagement. On a mis Casals en 2020, c'est bientôt, mais Saint-Antonin en 2022. Et bref, on sent bien que la pression qui s'exerce sur le terrain se retrouve dans la politique menée par l'administration. Et puis, toujours pour parler de rapport de force politique, c'est plus récemment la démarche entreprise à notre demande et à celle des trois communes que je viens de citer, par Valérie Rabault, notre députée, par un courrier au président de la République, demandant que l'administration cesse d'ignorer la loi de 2017. On en est venu là, dans un courrier qu'elle a fait le 11 juin dernier. Ce courrier, je le tiens d'ailleurs à votre disposition. Ça donne un peu l'état du dossier. Le dernier état de la question, pour finir. Il a été évoqué ce matin par le maire de Saint-Antonin, Gérard Hagan, devant l'Assemblée Générale de l'Association des Moulins du Quercy. Il a évoqué la venue à Saint-Antonin d'une secrétaire d'État, Emmanuel Vargon, qui est dans le ministère compétent pour notre sujet. Elle est venue le 25 août, elle est allée à Romégous, et de ce qu'elle a dit, nous avons tiré deux choses. D'une part, que si les études montrent des scénarios faisant baisser le niveau d'eau, on ne retiendra pas ces scénarios. C'était une façon de nous encourager à aller dans le sens de l'administration. Rassurez-vous, si jamais les scénarios qui seront étudiés par elle baissent le niveau d'eau à Saint-Antonin, on ne fera rien. C'est une déclaration ministérielle. Ce n'est pas le droit, ce n'est pas la loi. Et ensuite, sur la continuité écologique et la production d'énergie renouvelable, qui sont les deux aspects de ce dossier, sa déclaration, c'était que ces deux éléments sont complémentaires et nous ont encouragés à continuer à Romégous notre projet d'énergie hydroélectrique. Voilà, ça c'est l'état du dossier aujourd'hui. Par rapport à cela, nous, l'association des amis du Vieux Saint-Antonin, nous sommes prudents. Avant d'engager les études préalables prescrites par l'administration, avec un cahier des charges qui sera validé seulement par elle, comment s'y fier ? Il faut que la commune mène le projet d'équipement hydroélectrique, qu'elle demande la reconnaissance du titre à exploiter l'énergie sur la chaussée de Romégous et son moulin. Il faut déposer une déclaration de ce projet et vérifier que l'administration n'y fait pas opposition. C'est ça qui est devant nous. Et notre position, je parle au pluriel, nous, la commune, les associations, nous marchons de concert sur ce sujet. Alors seulement, notre position sera assez solide pour accepter éventuellement les études pour la continuité écologique et atteindre cette complémentarité que nous promet la ministre. Voilà, je m'arrête là. Vous comprenez que la réunion d'aujourd'hui donne du poids à cette démarche. Merci et la parole est à vous.